Bonjour. Et je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais baisser. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et moi, je vais vous amener un peu dans le passé, parce que parfois, ça fait du bien aussi d'aller un peu interroger notre histoire pour un peu mieux éclairer notre actualité, bien que parfois l'actualité fasse aussi écho à notre passé. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a un échange. Donc, en 2020, au moment où nous étions frappés par la pandémie liée au coronavirus, la ville de Marseille commémorait le tricentenaire de la peste de 1720-1722 qui avait sévi à Marseille, mais également dans la région provençale. Et ces deux crises sanitaires passées et actuelles mettent en avant les notions d'émergence et de réémergence des maladies infectieuses. Et donc, comme je vous le disais, afin d'éclairer notre présent, il est nécessaire d'interroger notre histoire passée et en particulier les crises épidémiques qui se sont déroulées par le passé. Donc, je vais donc vous amener sur les traces de la peste qui constitue en fait le sujet de ma recherche doctorale. Donc la peste, c'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie que l'on appelle Yersinia pestis et qui a accompagné l'être humain tout au long de son histoire, comme vous pourrez le voir. Elle fut à l'origine de trois pandémies. La première, que vous pouvez voir ici, qui a eu lieu entre le 6e et le 8e siècle et qui a affecté le bassin méditerranéen. À une époque, la souche à l'origine aurait été Yersinia pestis antiqua. Elle réémerge bien des siècles après, donc au début du XIVe siècle, avec un épisode que vous avez peut-être à peu près entendu parler, qu'on appelle la peste noire. Elle s'est installée sur quatre siècles avec des salves épidémiques. Et cette pandémie-là, la peste a emprunté les voies commerciales pour finalement atteindre le continent européen. Et enfin, elle émergea de nouveau au cours du 19e siècle. Et là, cette fois-ci, on peut vraiment parler de pandémie parce qu'elle a vraiment touché, impacté le monde entier. Et à cette époque-là, et donc, il aurait été, la souche probablement à l'origine aurait été Yersinia pestis orientalis. Actuellement, et malgré l'avènement de l'antibiothérapie, l'amélioration de tous les progrès qui ont été faits en médecine, la peste, quand même, comme vous pouvez le voir sur cette carte, persiste à bas bruit. Et dans les années 90, elle fut classée parmi les maladies dites réémergentes. Et il existe donc différentes formes de peste, comme vous l'indique ici le schéma. La peste bubonique, contractée à la suite d'une piqûre de la puce qui est infectée, qui est mortelle dans 40 à 70% des cas dans les situations où il y a une absence de traitement et le décès est très rapide, vu qu'en l'espace de moins d'une semaine, la personne décède. Il peut y avoir également ce que l'on appelle la peste pulmonaire, qui peut être une complication de la peste bubonique. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir, par contamination aérienne, des personnes qui auront été en contact avec la personne infectée, qui développeront aussi cette forme-là. Et il y a une autre forme qui existe, qui est la peste septicémique. Donc, ma recherche doctorale a été initiée pour pouvoir approfondir les connaissances sur l'impact de la peste sur les populations humaines passées. Donc, comme je vous en ai parlé un peu au début, entre 1720 et 1722, donc on a une épidémie de peste qui arrive par le port de Marseille et qui va ravager Marseille, la région et voire même au-delà. 242 communes vont être lourdement impactées sur les près de 400 000 habitants qu'elles regroupent, qu'elles recensent. On a 30% qui sont décimés. Et même dans Marseille, on a 40 à 50% de la population qui est décédée de la peste. Toutefois, des petites sortes de miracles ont pu se produire dans ces régions-là où la peste sévissait. Il y a des communes qui ont recensé peu, voire pas, de morts. Et donc, c'est là qu'en fait, notre problématique arrive et se pose. C'est est-ce que la peste a opéré une sélection au sein des populations humaines? Et donc, pour ça, on a besoin d'une... Enfin, de la on va dire, de l'action simultanée de plusieurs disciplines. D'abord l'archéoanthropologie qui va servir, donc, au cours de fouilles archéologiques, des squelettes sont exhumés, on va chercher donc à caractériser ces individus-là, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, donc ce qu'on le regroupe derrière le terme de profil biologique. On va essayer aussi d'approcher l'état sanitaire. Et dans un deuxième temps, le but, c'est de pouvoir un peu avoir une idée de quels étaient ces individus. Est-ce que c'était des jeunes? Est-ce que c'était des jeunes, des adultes, des hommes, des femmes? Ou est-ce qu'au final, tout le monde était à peu près, représenté? Et donc, notre but, ça va être de voir si donc, ce que l'on appelle le recrutement funéraire va se calquer avec le recrutement de type peste. Et on fera également des comparaisons avec d'autres sites de peste dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont de la région PACA. Et enfin, on a le besoin de la paléogénétique, parce que dans les cas où des sites archéologiques donc, sont mis en évidence, mais que, on va dire, tout ce qui est source écrite ne permettent pas d'attester que Yersinia pestis ou la peste est passée par là, on a besoin d'un outil qui va pouvoir nous montrer par A plus B que Yersinia pestis a bien sévi et a bien tué les personnes, les individus que l'on a en face de nous. Et ensuite, et c'est ça, en fait, ce qui fait tout l'intérêt de ce sujet, c'est d'arriver à savoir, en fait, si notre génome a pu être façonné par l'action de Yersinia pestis et quelles conséquences, en fait, actuellement, peuvent être mises en évidence et en quoi ça peut nous aider d'un point de vue santé publique. Donc, d'abord, je vais vous parler de ce volet-là, la caractérisation des individus. Alors, moi, là, je vais vous parler d'une série que j'ai étudiée, là, récemment, issue de la maladrerie Saint-Lazare de Beauvais. Donc, on se trouve dans l'Oise. Et donc, à l'extérieur de cette ancienne institution, qui était une institution hospitalo-caritative, à l'extérieur de ces murs a été retrouvé, lors de fouilles archéologiques, un charnier, véritablement, près entre 500 et 600 individus ont été exhumés. Et d'après le peu de sources à disposition, la peste est passée par là. Donc, il a fallu, du coup, caractériser cette population archéologique. Dans un premier temps, il s'agit de renseigner l'état de conservation de ces individus, parce que, du coup, de cet état de conservation va dépendre l'acquisition des données, dont je vous ai vaguement parlé tout à l'heure, en termes d'âge, de sexe et l'état sanitaire. Et donc, pour cela, on passe par ce que l'on appelle l'évaluation d'un indice de conservation anatomique, c'est-à-dire on étale notre squelette et sur toutes les pièces anatomiques constituant le squelette, on va attribuer un pourcentage de conservation, 0 étant la pièce est totalement absente, et 100% la pièce est véritablement intacte. Donc, cet état de conservation, on va dire, étudié, on va vraiment là s'atteler à caractériser notre population en termes d'âge. Donc, selon qu'on aura en face un individu, un enfant, on va dire, un individu immature ou un individu mature, l'approche méthodologique va différer. Pour les individus matures, on va se baser sur des indicateurs donc osseux, comme vous pouvez le voir ici, et dentaires. Et donc, dans les cas où on aura tous ces éléments-là qui seront, on va dire, conservés, l'intervalle d'âge se reposera sur les différentes informations que nous aurons récoltées grâce à ces indicateurs mentionné. Pour les individus matures, là, on va plutôt se baser sur des indicateurs de dégénérescence, on va dire, de remodelage dégénératif, et donc plus des indicateurs de sénescence, je vais trouver le terme. Donc là, au niveau d'un os qui fait partie de notre ceinture pelvienne, et pour tout ce qui est détermination du sexe, pareil, on se basera sur l'os coxal, qui est l'élément le plus dimorphique de notre anatomie. Ensuite, donc pour tout ce qui est état sanitaire, donc on va aller renseigner des marqueurs de stress aspécifique. Pourquoi aspécifique? Pour le moment, à ce jour, il n'y a pas vraiment d'étiologie particulière qui entraîne le développement de ces lésions-là. Et donc, on va, ceci va, se repos, va reposer sur un examen macroscopique. Donc, au niveau, là, on se trouve au niveau du crâne, ici au niveau du plafond orbitaire, et là, ici au niveau des dents. Donc, d'un point de vue, vitement sur les résultats, donc sur, notamment, moi, je vous présente les résultats des plus grosses fosses, on va dire. Pourquoi plus grosses fosses? Parce qu'on a un très grand nombre d'individus qui ont été exhumés. Donc, celle-ci, on est la 85-59, on est autour de 170 individus, et la 85-55 autour d'une quarantaine d'individus. Donc, on se rend compte que, quand même, globalement, donc, on a des stades de conservation. Au plus le stade est élevé, au plus ça veut dire que nos individus sont bien conservés. On se retrouve avec, quand même, une relative bonne conservation. On se retrouve, quand même, avec une répartition des individus immatures qui est plus importante que celle des matures. Des sujets féminins représenter un peu plus que, enfin, plus que les sujets masculins. Et au niveau de tout ce qui est indicateur de stress, révélateur d'un état de santé, hormis, excepté les hypoplasies de l'émail dentaire, qui sont un défaut du tissu dentaire, les autres sont peu fréquents. Donc, une fois qu'on a caractérisé notre population, donc maintenant, on va vouloir donc analyser la structure de la population, notamment en termes d'âge, de Beauvais. Et on va la comparer avec un schéma de mortalité qui est de l'époque, qui est avant la révolution industrielle, pour comparer ce qui est comparable. Et le but, ça va être de pouvoir répondre à est-ce que la peste a opéré une sélection. Sachant que qui sont en notre possession, la peste impacte relativement de façon uniforme les différentes classes d'âge. Et donc ensuite, donc je vous ai parlé au départ de Marseille, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet, donc je reviens. Le but, ça sera de pouvoir là aussi comparer cette structure de la population de Beauvais avec celle des populations, alors archéologiques, issues de PACA, et qui sont, ces individus-là, décédés au cours de l'épidémie de peste de 1720-1722. Donc ensuite, la génétique. Donc, comme je vous disais, dans les cas où on est en absence, les sources écrites nous font défaut, l'apport de la paléogénétique va nous permettre d'aller détecter, ou pas toujours, parce que c'est un peu parfois gagnant-gagnant, de détecter. Donc, on va aller cibler une région spécifique du génome de la bactérie. Et si cette portion-là est mise en évidence par, donc grâce à la polymérase chain reaction dont on a entendu beaucoup avec le Covid, qui permet d'amplifier en fait notre matériel génétique, on peut arriver à mettre en évidence, et ça a été le cas ici pour Beauvais, la présence de Yersinia pestis. Et également, ce qui est surtout l'intérêt en fait de ce travail, c'est d'aller en fait, grâce à la paléogénétique, on peut aller étudier l'ADN de ces individus-là passés, donc des séries de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Picardie. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir si est-ce que la peste a eu un impact sur nos gènes, et en particulier les gènes impliqués dans la réponse immunitaire. Et donc, si on arrive à pouvoir démontrer ça, que la peste a agi comme une sélection, et qu'en fait, nous, en tant que, comme toute espèce, on s'est adapté, mais donc là, cette fois-ci, ça se sera répercuté génétiquement. Donc, en conclusion, ici, ce travail, vraiment, il veut pouvoir réunir, en fait, le savoir, la connaissance et l'expertise de différentes disciplines afin de reconstruire l'histoire des épidémies passées. Retransmettre, ça je vous en ai pas parlé parce que c'est pas tellement mon domaine, retransmettre les croyances liées à la maladie, retracer également toute la gestion funéraire avec les modalités, les modes d'inhumation, de préservation qui ont pu être à l'époque. Ça a été bien renseigné pour l'épidémie de Marseille. Et surtout, moi, dans mon cas à moi, c'est pouvoir approcher l'impact populationnel qui résulte de ce fléau, et de détecter d'éventuelles empreintes de sélection sur notre génome par la peste. Et donc, pour boucler la boucle, L'intérêt de cette communication, c'était pour voilà, mettre en évidence qu'il y a cette nécessité d'un travail en commun de la part de différentes disciplines pour interroger les crises épidémiques passées sur tout ce qui est la notion d'émergence et de réémergence, en allant étudier l'impact démographique que la peste a pu avoir sur les populations. Et pour nous, actuellement, en fait, c'est est-ce que notre génome a été façonné par ces épidémies? Alors, ça peut être de peste, mais on peut l'appliquer à d'autres pathologies également. Mais moi, en l'occurrence, c'est la peste qui m'intéresse. Notamment, si des répercussions, en fait, ont eu lieu au niveau des gènes qui sont impliqués dans notre système immunitaire, qui est notre première barrière, au fait, en fait, de défense face, bon là, ici, à la peste, mais en fait, face à de nouvelles menaces infectieuses. Je vous remercie pour votre attention et je me ferai plaisir de vous répondre.
Moi, j'aurais une question. J'y vais. Alors, du coup, tu disais que, effectivement, la peste donc, passée pouvait influencer notre génome présent. Et en fait, on voit, avec les problèmes environnementaux qu'il y a un développement des épidémies. Et est-ce que tu sais comment, en fait, ces problématiques environnementales, en fait, comment... Est-ce que ça peut aggraver en fait ce genre d'épidémie, comme par exemple on a eu pour le Covid, par exemple l'épidémie s'est développée parce qu'on a fragmenté, on a gratté encore sur des territoires naturels et on est entré en contact avec des agents pathogènes. Est-ce que ça peut être le même cas là pour les réémergences du coup de peste?
Déjà, je pense que, en fait, de tout temps, qu'importe les contextes, les agents pathogènes nous ont accompagnés. Probablement que, avec ce que l'on traverse actuellement, ça peut, comment dire, il peut y avoir une sorte d'aggravation, mais j'ai envie de dire. Le fait, justement, d'aller voir dans le passé, on se rend compte que. Et déjà, même dans notre manière de gérer les épidémies, on n'est pas plus à la ramasse qu'à une autre époque. Donc, je pense juste que c'est plutôt une question de comment, en fait, nous, on va finir par y répondre à ces crises-là. Et en fait, dans toutes les circonstances, alors malheureusement, avec quand même des impacts qui sont parfois démographiques, qui sont vraiment impressionnants, au final, comme toute espèce, on s'adapte. Tout à l'heure, Monsieur Éloi Laurent parlait de Darwin et de la notion de compétition. J'ai envie de revoir un peu ce terme de compétition. Avant tout, nous, notre but, comme n'importe quelle espèce, c'est de transmettre notre patrimoine aux générations futures. Maintenant, on évolue comme toute espèce dans un milieu qui est mouvant. Et donc, ces mouvances-là vont entraîner des contraintes. Hein, et ces contraintes-là, ben, on peut se rendre compte que, et justement avec la paléogénétique, ça a des répercussions sur notre génome et donc sur notre manière, en retour, de répondre à notre environnement. Et qui lui, du coup, et là je parle ici en l'occurrence de Yersinia pestis, lui aussi se rend compte que nous on s'adapte, ben, moi aussi je vais m'adapter parce que moi aussi j'ai besoin de faire comme toi, de transmettre, de me développer, etc. Donc je pense que oui, ça peut être accentué. Maintenant, je pense que c'est dans notre manière de répondre qu'il faut réellement en fait agir. Et j'espère qu'en fait cette communication-là aura... montrera qu'il faut en fait, en effet, l'expertise de plusieurs disciplines pour se rendre compte que on s'adapte, on arrive à s'en sortir. Après, avec parfois des impacts plus ou moins lourds. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Merci de m'excuser. Alors, comme il s'agit d'une thèse en construction, j'ai essayé de suivre et je crois que la peste de façon générale, c'est une maladie, comme vous l'avez située, d'un siècle, de plusieurs siècles passés, oui. puisque là, vous avez parlé de 520 et 522 dans oui. le cas de Marseille. Oui. Et cette étude, son intérêt, c'est que ça permet d'éclairer c'est les ça. Choses qui se passent actuellement, Exactement. Notamment avec le coronavirus.
Exactement.
Et si j'ai bien suivi, je crois, votre problématique, il était question de voir si il y avait une sélection, ouais. si j'ai bien suivi, hein, oui, oui, oui. s'il y avait une sélection. Ouais. Alors, ce que je n'ai pas compris, s'il y a une sélection, ça veut dire que quand on a exhumé les gens qui sont morts, ouais. peut-être de peste, est-ce que vous avez également de caractériser les personnes qui ne sont pas mortes de peste pour savoir dans le même environnement comment oui. certains ont été préservés et d'autres ont subi l'impact de la peste pour qu'au regard de cette situation-là, on comprenne davantage la situation du coronavirus. On a vu que c'est des gens d'un certain âge, ainsi de suite. Mmh. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité de vacciner même les bébés, pratiquement. Alors, je crois que l'intérêt résiste à ça, parce que pour que ça puisse édifier l'actualité, il faut véritablement mettre également l'accent entre ceux qui ont survécu à la peste, pourquoi ils ont résisté, pourquoi les autres n'ont pas résisté, alors qu'ils vivaient dans le même environnement. Ouais. Ça permettrait de mieux éclairer le présent. Je vous remercie.
Alors, la question est parfaitement pertinente. En fait, il y a deux choses. Alors, parfois, peut se poser la question d'aller travailler sur des collections, on va dire, entre guillemets, témoins, c'est-à-dire des squelettes, donc des individus du passé, qui ne sont pas morts de la peste. Et il y a des gens qui travaillent comme ça, en travaillant sur ces collections-là, et des collections d'individus décédés de la peste. Il y a une deuxième chose, et sur ce que vous disiez, sur les survivants de la peste à cette époque-là. Et ça, c'est très compliqué. Parce que déjà, de base, tout ce qui est fouille archéologique, en fait, c'est un peu dépendant de voilà s'il y a des besoins de comment dire ça va être des fouilles préventives ou ça va être des fouilles qui vont être organisées parce que il y aura la nécessité de la construction d'un bâtiment, etc. Donc on est un peu dépendant aussi du matériel qu'on exhume et pour tout ce qui est aller interroger entre guillemets les survivants, c'est compliqué parce que ça, pour avoir la trace, ben en fait c'est carrément un sujet d'étude aussi un peu, je vais dire pas à part entière, mais pas loin. Et sachant que encore une fois aussi selon les sites, on s'appuie aussi sur tout ce qui est donc là, je vous ai parlé des sources biologiques, mais il y a tout ce qui est sources écrites, donc c'est-à-dire les archives, et ça parfois. Pour certains sites archéologiques, elles sont presque absentes, voire elles font défaut. Et donc, pour pouvoir remonter cette question autour de ceux qui ont survécu, etc., c'est quelque chose qui est compliqué à aller chercher, sachant que là, mon sujet, il est vraiment... Enfin, je ne suis même pas sûre d'aller jusqu'au bout d'un point de vue de la question de la génétique. Ça sera sûrement pour les années prochaines ou pour d'autres personnes, je ne sais pas. Mais c'est un projet qui est assez balbutiement. Donc,
dans ce cas-là, donc, votre problématique, plus haut là, vous avez parlé de sélection. Parce que pour qu'il y ait sélection, il faut qu'il y ait comparaison entre deux oui. individus.
Et
alors,
ben...
si vous problématisez par rapport à la sélection et que vous ne faites pas ressortir les deux groupes d'individus, je doute fort bien que vous arriviez véritablement Alors, voilà, à démontrer ouais. qu'il y a une sélection.
Bien sûr.
Voilà.
Il y a la sélection, on va dire, abordée par le prisme de la génétique et la sélection qui est abordée par le prisme de l'archéoanthropologie. Et moi, en fait, c'est sur ça en fait, que je travaille. Quand tout à l'heure, je vous ai parlé, mais c'était un peu compliqué, de comparer le recrutement funéraire ou la structure de la population. Donc là, par exemple, de Beauvais par rapport à celle issue de PACA, c'est ça, en fait. C'est à cette échelle-là qu'on va essayer de voir si on a potentiellement une sélection ou pas. Et la génétique arrivera plus en perspective.
Merci.
On va laisser Firmin qui avait une question et ensuite Fleur parce qu'on est un peu à court de temps et on continuera les discussions ce midi.
Ok, merci beaucoup. Moi c'est Firmin Crabe et doctorant en socio-anthropologie de la santé en Côte d'Ivoire. Et dans votre présentation, effectivement, vous êtes rentré par le contexte de la peste amassée. Et comme vous l'avez si bien signifié, c'est que effectivement la peste est arrivée à Marseille via un. Voilà. Et donc, et ce bateau, en fait, ma question va porter sur la réponse coopérative d'une épidémie, c'est-à-dire une réponse où on coopère, c'est-à-dire que où la santé publique va essayer peut-être de coopérer avec une institution économique. Parce que pour la peste de Marseille, c'est que le bateau ne devait pas arriver à Marseille. Mais pour des questions économiques, oui. Finalement, on a laissé entrer le bateau. Et donc, la question que je me pose, c'est comment on pourra, à l'avenir, et comment on peut construire une réponse coopérative avec des institutions qui ont des logiques économiques et qui sont parfois contradictoires avec les logiques de santé publique. Est-ce qu'on va mettre en place des logiques de ces activités non nécessaires ou activités nécessaires comme on l'a vu dans le cadre du Covid?
Je pense que ça va dépendre beaucoup en fait des messages, de la communication faite autour de la prévention. Parce que même à l'époque, donc c'est arrivé, en effet, il y avait des enjeux économiques, vu que les marchandises étaient censées être allées à destination de la foire de Beaucaire, et que en effet, hein, les autorités de l'époque ont levé les interdictions, sachant que le bateau était interdit, en fait, de décharger sa marchandise. Donc là, après, c'est ça où, encore une fois, c'est compliqué, parce qu'à l'époque, ils avaient quand même les populations de l'époque, il y avait une gestion sanitaire qui avait été mise en place, qui était quand même, qui était bien. Il y avait tout ce réseau de lazarets qui était censé mettre en quarantaine les bateaux qui provenaient et où il y avait des suspicions de cas de peste, etc. Il y avait des documents qui étaient censés être mis en place, etc., pour signifier qu'il y avait des cas suspects, etc. Donc la logistique, elle y était, et en effet, c'est par, on va dire, les autorités locales qui ont un peu shunté le système qui était pourtant, qui aurait pu éviter cette défaillance-là. Or, c'est même pas une défaillance ici, mais c'est... Oui, si, c'est une défaillance. Et donc je pense qu'il... à part communiquer et faire de la prévention autour de la transmission et de tout ce qui peut être véhiculé, je pense qu'il peut y avoir en fait réellement un créneau à vis-à-vis de ça.